Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
RMC.
Grand plateau.
Johan Bredov.
Salut à tous, le premier monument de l'année nous a réservé son lot de surprises et un final grandiose. Ce Milan-San Remo a sacré le meilleur sprinter du monde, à savoir Jasper Philipsen, le Belge d'Alpecin s'est accroché pour rester au contact des meilleurs et a surtout profité d'un travail parfait de Mathieu Van Der Poel sur la Via Roma. Le champion du monde n'avait même pas la même puissance que l'année dernière et s'est donc sacrifié pour aller chercher les quelques coureurs qui s'étaient isolés en bas de la descente du Poggio. Auparavant, il n'avait pas lâché la roue de Tadej Pogacar. Le Slovène a tout tenté, mais finalement a été bien trop seul pour espérer faire craquer tous ses adversaires. Troisième à l'arrivée, derrière Philipsen et Matthews, Poggi signe tout de même son meilleur classement sur la Primavera. On reviendra sur tout ça et évidemment sur les performances des Français avec aujourd'hui, s'il vous plaît, les deux hommes qui vous ont fait vivre cette course sur RMC. Déjà, Cyril Guimard, salut le druide.
Oui, bonjour, bonjour à tous. Oui, on a passé un bon samedi.
Ouais, c'était pas mal, Cyril. T'as vibré, je t'ai entendu à l'antenne. Là, t'as failli perdre ta voix. Hein.
Ah oui, j'ai failli d'ailleurs couvrir même la voix de Arnaud, ce qui aurait été une performance absolument extraordinaire.
Le crime de lèse-majesté. Arnaud Souk est avec nous.
Salut les amis, est-ce que tu insinuerais que je crie trop fort ? C'est ça, Cyril ?
Ah non, je te trouve très bon quand tu comment tu n'arrivais. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Personnellement, c'est un exploit sportif. Hein.
Ah oui, on va voir.
En même temps qu'intellectuel, parce qu'il faut trouver les mots, il faut trouver les adjectifs, les super adjectifs.
Bah, c'est un dictionnaire. C'est un dictionnaire. On l'appelle le Larousse hein, dans le jargon. Arnaud Souk. Justement, tiens, Arnaud, on va t'entendre crier sur cette course que tu nous as fait vivre donc samedi sur RMC.
Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive qui s'intéresse ce soir à une profession mystérieuse, fascinante parfois, celle des médiums, des voyants et des mentalistes.
J'ai l'impression que Van Der Poel est resté en dedans dans cette descente. Au niveau des trajectoires, il était meilleur que Pogacar, mais il n'a pas voulu passer à l'offensive. Pour quelle raison ? Ça, on le saura peut-être après l'arrivée.
Ne serait-ce que pour essayer de deviner ce qui va se passer dans l'année en cours.
Vous êtes voyant, n'est-ce pas ?
Exactement, je prévois l'avenir.
Peut-être le monument le plus incertain de l'année. Eh bien, encore une fois, il est plus qu'incertain, puisqu'à 700 mètres de la ligne, bien malin, celui qui pourra dire qui va s'imposer.
C'est celle-là. Hein ? Tu l'as prévu, celle-là ? Pas besoin de long débat pour démystifier le charlatan.
Mats Pedersen qui va déborder sur le côté de la route. On a également Jasper Philipsen. Jasper Philipsen, peut-être qu'il va pouvoir s'imposer. Le coéquipier de Mathieu Van Der Poel, l'homme aux 4 victoires sur le dernier Tour de France. Jasper Philipsen qui s'imposer. Impose aujourd'hui sur Milan-San Remo, la surprise du chef. On n'avait pas vu une seule fois son nez de toute la course. 6h, 14 minutes et 45 secondes. Et le Belge, Jasper Disaster, c'est Jasper the Master aujourd'hui sur Milan-San Remo.
Voilà, une création signée Kylian Verhove, hein, notre producteur du jour. Là,
excellent.
Qui s'est amusé. Il est excellent, ouais, bien sûr, c'est le meilleur. On prend les meilleurs pour ce podcast. Arnaud, t'as un petit peu crié quand même. Hein.
Un petit peu, bah oui, mais il y avait de quoi, hein, parce que on l'a dit quand même, et c'est vrai Cyril, tu me contrediras pas. On sait hein, que Milan-San Remo, c'est souvent 5h45 d'ennui et une demi-heure de bonheur. Là, on a eu pour une fois, allez, on va dire 5h15 d'ennui et une bonne heure de bonheur. Non, franchement, à partir des capis, c'était quand même de fort belle facture, Cyril.
Oui, à partir du moment où on a attaqué les capis, et puis surtout la Pogacar qui a commencé à donner un petit peu du rythme avec ses équipiers. Il y a eu le capo Berta et puis après la Cipresa, où là encore d'ailleurs Pogacar a tenté de faire exploser, puis il va manquer un dernier relais pour peut-être faire exploser davantage ce groupe de tête qu'on va retrouver dans la montée du Poggio et bien sûr dans la dernière ligne droite. Il a manqué un petit quelque chose à Pogacar, mais dans les deux derniers kilomètres, eh bien, on aurait pu avoir plusieurs vainqueurs différents. Et c'est là où Milan-San Remo est absolument extraordinaire. On s'ennuie dans 95% des cas, jusqu'aux dernières difficultés. Et d'un seul coup, tout se passe et on gagne quelques fins uniquement, eh bien, sur un petit claquement de doigts, un petit clin d'œil. Et c'est ce qui s'est passé encore cette année.
Ouais, Jasper Philipsen qui s'est imposé avec 15 cm d'avance sur Michael Matthews. Ça s'est joué à rien après 300 km, 5 heures d'effort quand même, perdre pour 15 cm, ça fait mal.
Bah, surtout que c'est pas la première fois en plus. Michael Matthews. je pense que c'est le monument, enfin j'ai pas vérifié par ailleurs, mais c'est le monument sur lequel il a fait le plus de top 10, c'est incontestable. Il doit en être à 5 ou 6 top 10, il a terminé je crois 3 ou 4 fois sur le podium, Michael Matthews. Là c'était peut-être l'occasion rêvée pour lui, et puis bon, à mon avis, il faut pas que le sprint dure 50 mètres de plus, parce que sinon il passe devant Philipsen, hein. J'ai bien l'impression qu'il est en train de remonter. Bon, c'est dommage aussi pour lui, hein. C'est un sacré coureur qui a un très beau palmarès, mais il lui manquera quand même notamment ce Milan Sanremo. Je suis pas sûr que l'occasion se représente pour lui d'être autant dans le coup pour la gagne.
Ouais, c'était le scénario idéal pour ce genre de coureur. Et donc Jasper Philipsen sacré sur ce Milan Sanremo après un sprint monumental. Il faisait partie des outsiders, peut-être la deuxième carte à jouer pour Alpecin après Mathieu Van Der Poel. Bon, c'est une carte dorée, hein. Quand on a le meilleur sprinter du monde qui a fait deuxième sur Paris-Roubaix l'année dernière, évidemment, c'est pas n'importe quelle carte. Mais Cyril, est-ce que t'es quand même surpris de voir le Belge s'imposer sur la Via Roma ?
Surpris, oui et non, parce qu'il fait partie des meilleurs sprinteurs, mais il fait aussi partie des meilleurs sprinteurs pour une raison simple, c'est qu'il est parmi ces sprinteurs celui qui passe le mieux les difficultés. Et puis on sait qu'il a un gros potentiel, indépendamment de qualité qu'on pourrait appeler nécessaire de grimpeur. C'est quand même un type qui a terminé deuxième de Paris-Roubaix l'an dernier. Une épreuve qui demande une très grosse VO2 max, une très grosse endurance. Eh bien, il a été capable d'être à l'arrivée en protégeant et en aidant Van Der Poel.
Et en le laissant gagner, de fait, vu que c'est son coéquipier. C'est pas impossible que sinon, il ait pu le régler au sprint.
Oui, il aurait fait. Bon, on peut toujours dire qu'il peut se passer autre chose. Est-ce que si Van Aert n'a pas une crevaison, si Degen Kolb chute pas au pied de la, dans les premiers hectomètres de la montée de l'arbre, oui, tout était possible. Vous savez, à ce niveau-là, les courses, ça joue sur un petit peu de réussite, un petit peu de chance, et puis un peu la baraka. Oui, la baraka, mais celle que tu provoques. Donc elle n'est jamais tout à fait par hasard, mais quand on est capable de faire deuxième de Paris-Roubaix, ça veut dire qu'on a un gros moteur, et si on est en super condition, et c'était le cas, eh bien ils étaient que 11, hein, je crois, au sommet de du Poggio. Et c'est 12, là d'ailleurs 12, on s'est un petit peu ou 12. C'est peut-être là où on s'est un petit peu planté. On s'est posé des questions d'ailleurs quand d'un seul coup dans le bas de la descente, quand Matej Maurik sort, immédiatement Van Der Poel y va et il se met à faire le rouleau compresseur derrière, et là moi je me dis il peut plus gagner au sprint s'il va chercher tout le monde jusqu'à la ligne d'arrivée. Et on n'avait pas vu qu'il y avait Philipsen qui était là planqué en 7 ou 8e position. J'ai regardé les images, il a tout fait pour qu'on le voit pas.
Bah en fait il a sorti son nez la première fois qu'on l'a vraiment aperçu, et heureusement j'étais attentif à ce moment-là, c'est dans la Cipressa, hein, où il est venu se replacer un petit peu sur le côté gauche de la route, mais sans ça on en avait pas du tout parlé, effectivement. Excuse-moi de t'avoir coupé la parole, Cyril.
Oui, non, mais c'est vrai que je pense qu'il y avait le plan B. Le plan B, c'était Philipsen, et qu'on ne l'a pas vu jamais travailler. Même on voyait quelquefois peu d'équipiers autour de Van Der Poel. Mais un sprinter, vous savez, c'est quelqu'un qui sait exactement être dans l'aspiration, et quand tu peux y être toute la journée, t'arrives avec des réserves, avec un peu de réserve dans le final. Donc il y avait un plan B à partir du moment où Van Der Poel n'avait pas pu faire la différence dans l'ascension, ou tout du moins s'isoler avec des coureurs dont il était sûr de pouvoir s'imposer au sprint. À partir de ce moment-là, eh bien, il passait au plan B. Et le plan B, ils l'ont pris dans la descente, parce que même dans la descente, quand on regarde comment descend Van Der Poel, eh bien, Van Der Poel, à aucun moment, essaye de relancer l'allure dans la route Pogacar. Et là, on s'est posé la question, d'ailleurs, le son qu'on a passé tout à l'heure, j'y fais allusion. Et là, après, on comprend mieux pourquoi. Tout simplement parce que l'homme le plus vite, une fois qu'il avait passé le sommet, l'homme le plus vite, c'était Philipsen. Donc, il n'y avait plus photo. On ne joue plus à ce niveau-là. On ne fait plus sa course à titre perso en disant, bon, je m'en fous, j'ai un sprinter, mais moi aussi, je vais vite et je vais me la faire. Là, de toute façon, il ne l'aurait pas fait parce que tout le monde était contre eux. Il y a Sobrero qui est sorti, il y a Pidcock qui est sorti, Maurić, on l'a dit tout à l'heure. Et c'est toujours le même homme qui a roulé.
Ouais, Jasper Philipsen, donc, il s'impose pour ce Milan
Milan San Remo, bien aidé par Mathieu Van Der Poel, équipier de grand luxe sur la toute fin de course, vous l'avez dit messieurs. D'ailleurs, le Belge a tout de suite évoqué le boulot du champion du monde à son arrivée.
It's incredible. Cannot realize a monument is something where you dream of. Definitely Milan San Remo, maybe one of the only monuments I can win.
C'est incroyable, j'en rêvais. Je savais que je pouvais remporter Milan San Remo. Mathieu a été exceptionnel. Sans lui, je n'aurais probablement pas gagné. Je n'oublierai jamais. Je lui suis reconnaissant à vie. C'est peut-être l'une de mes seules chances de gagner un monument. Je suis fier, mais également heureux du travail accompli toute la journée par l'équipe. J'avais un bon sentiment et de bonnes jambes aujourd'hui. Je croyais en mes chances, mais sur ce genre de course, il faut que tout tourne bien. J'avais peur de Mads Pedersen et je savais que Michael Matthews serait dangereux à l'arrivée. Mais après tant de kilomètres, ce genre de sprint est totalement différent.
Feels strange and different.
Ouais, plus frais, Jasper Philipsen donc sur la Via Roma pour aller s'imposer. Bon, Cyril, tu l'as entendu, il remercie tout de suite Mathieu Van Der Poel. Sans Mathieu, il gagne pas Philipsen.
Non, je pense qu'il ne peut pas gagner s'il n'a pas ce rouleau compresseur de Van Der Poel sur les deux derniers kilomètres, on va dire depuis le bas de la descente. Hein. Et déjà même s'il va pas chercher Pogacar dans la montée du Poggio, s'il va pas chercher Pogacar, je suis pas sûr que Pogacar va pas la gagner. Mais on refait pas non plus toute la course. Donc oui, il peut dire un grand merci à Van Der Poel. S'il est tout seul, il va trop vite au sprint. Pour qu'on l'emmène aux 200 mètres, c'est pas possible. Déjà, il s'est fait flinguer par Maurit, Sobrero, Pidcock. Pidcock est rejoint très près de l'arrivée. Hein. Mm-hmm. Il est rejoint à moins de 500 mètres. Donc non, un sprinter tout seul ne peut pas gagner dans ces conditions-là. Si t'as pas un équipier, t'es mort.
Bon, d'ailleurs, Jasper Philipsen, il est en fin de contrat hein, chez Alpecin. Ça, c'est une donnée importante à prendre en compte. Et le Belge, d'ailleurs, Arnaud, qui a déclaré il y a quelques jours qu'il était prêt à partir quand même en fin de saison.
Oui, et alors parce que donc il est en fin de contrat au 31 décembre, ça fait 4 saisons hein, qu'il évolue chez Alpecin Phoenix. Il était avant chez UAE Team Emirates, et s'il revenait chez UAE Team Emirates, il y a une image qui nous a sauté aux yeux. Alors ça fait bondir certains, mais bref, on va s'éviter d'en parler. C'est cette image de Tadej Pogacar qui termine troisième et qui saute directement dans les bras de Jasper Philipsen, voilà, pour le féliciter, grand sourire sur le podium, une mime, un bisou fait à Jasper Philipsen.
Ça, on l'avait vu sur le tour hein, d'ailleurs, Philipsen et Pogacar,
exactement, très voilà, très amis. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Pourquoi on ne pourrait pas imaginer hein, Jasper Philipsen revenir dans le giron du AE Team Emirates? Après voilà, il y a aussi quand même l'autre réalité, c'est que il s'entend aussi très très bien avec Mathieu Van Der Poel chez Alpecin Phoenix, que cette équipe a quand même des gros moyens et que il a les coups des franches. Je suis pas persuadé que s'il allait chez UAE Team Emirates, il aurait autant le loisir de sprinter et de gagner 4 étapes par Tour de France.
Bah c'est ça, Cyril. Est-ce que c'est une bonne idée pour Jasper Philipsen de quitter un Mathieu Van Der Poel? Je suis pas sûr. Hein.
Aujourd'hui, et j'ai pu le constater dans d'autres circonstances, quand on est un coureur comme Philipsen et qu'on a des coureurs capables de vous porter à moins de 200 mètres de la ligne d'arrivée, vous n'avez plus qu'à finir le travail et quelquefois même pas à vous mettre à fond. Pour moi, ce serait une erreur, mais vous savez, maintenant qu'il y a le jeu des agents, tout est possible. Mais moi, je me souviens d'un coureur que j'ai eu qui marchait très très bien, qui a fait qui a fait podium sur le Tour d'Espagne, qui a fait dans le top 5 du Tour de France et qui est parti de l'équipe. Et quand il m'a annoncé qu'il partait, je lui ai dit, tu sais, t'es dans l'équipe de Bernard Hinault. Quand t'attaques, c'est Bernard Hinault qui freine. À partir de l'année prochaine, quand t'attaqueras, c'est Hinault qui va rouler. Ça change tout. Et effectivement, ça a changé toute sa carrière, même s'il a continué à avoir quelques bons résultats, mais pas ce qu'il aurait eu en restant le lieutenant de Bernard Hinault. Mais ça fait partie de la vie, ça fait partie des choix que chacun fait en fonction d'un certain nombre de circonstances, un certain nombre de sentiments au niveau de sa personnalité et puis de l'envie peut-être d'aller voler de ses propres ailes. Ça fait partie de l'histoire du monde. Donc il peut le faire, mais je suis je suis pas certain qu'il aura le même équipier pour lui emmener les sprints.
Ouais. Bon, son agent d'ailleurs, t'en parlais, c'est Alex Carrera, l'agent de Jasper Philipsen. C'est le même que Tadej Pogacar. Ça peut donner peut-être quelques signes en fin de saison. C'est l'agent le plus influent dans le vélo. Donc voilà. Le Belge, évidemment, qui aura Paris-Roubaix en objectif, c'est dans la même configuration. Il aura Mathieu Van Der Poel comme équipier. Est-ce qu'il peut gagner sur le Vélodrome, Cyril, du coup?
Oui. Oui, bien sûr. L'an dernier, les deux premiers, c'était nos deux champions du Milan-San Remo. Quand vous avez déjà fait deuxième ou premier, c'est quand même vous qui avez le plus de chance, qui portez le plus d'espoir pour une nouvelle victoire. Si vous avez fait 75e, c'est quand même plus difficile de dire que vous allez gagner l'année suivante. Donc oui, en plus... Bon, ce sont des coureurs qui sont super, super adroits. Ce sont des virtuoses. Donc, sur Paris-Roubaix, oui, il faut être un super pilote pour pouvoir passer au travers de tous les pièges de l'ensemble des secteurs pavés.
Bon, on a parlé de Mathieu Van Der Poel, justement parfait en équipier. C'est aussi ça qui prouve qu'il est un immense champion. C'est cette faculté à aider son équipe et à se mettre en retrait au moment où il faut. Il avait annoncé avant la course que sa tactique serait de suivre Tadej Pogacar, évidemment de tenter la gagne, mais il n'avait pas les jambes. Écoutez-le d'ailleurs au micro de nos confrères belges de l'RTBF.
C'était quand même bien dur et ouais, j'étais bien dans la roue de Tadej dans le podium, mais au dernier bout il en mettait encore une et j'aurais cru qu'il y avait les autres gars qui allaient réagir, mais ouais, c'était moi-même qui devais aller le chercher, mais j'étais aussi à mon limite là au top, donc c'était difficile de prendre des relais et ouais, Jasper il me disait que ses jambes étaient encore bien et c'était alors à moi de rouler. Il me l'a dit dans l'oreille, mais il m'avait déjà dit avant qu'on tournait sur le podio qu'il était vraiment bien. Et le Chipressa, c'était pas très très dur cette fois, donc je savais qu'il avait une bonne chance et c'était à moi d'en faire sûr qu'on avait un sprint avec le groupe pour la première place.
Ouais, Arnaud, t'as suivi.
La Chipressa, c'était pas très très dur.
Non, ouais, c'est pas le seul à dire ça. Hein. On va écouter Tadej Pogacar. Il dit que c'est une course facile. Donc voilà, forcément, c'est des immenses champions. Mais Arnaud, évidemment, t'as suivi cette course attentivement pour nos antennes. Mathieu Van Der Poel, finalement, il n'a jamais pris la course en main. Il a toujours fait que suivre, j'ai envie de dire.
Bon, oui, après, il a toujours fait que suivre. Voilà. Peut-être qu'il n'avait pas les jambes aussi pour prendre la course en main comme il l'avait fait l'an passé tout simplement dans le Poggio où il avait placé une contre-attaque foudroyante derrière Tadej Pogacar qui avait fait la différence. Voilà, c'est peut-être aussi qu'il avait moins les jambes. Après, c'est sa course de rentrée à Mathieu Van Der Poel cette saison. Donc, ça change quand même peut-être pas mal de choses aussi. Même si ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en forme, hein, Mathieu Van Der Poel. Attention, hein, il termine quand même encore une fois dans le top 10 d'un monument. On aura peut-être l'occasion de revenir sur les statistiques d'ailleurs qui sont absolument incroyables, mais oui, s'il n'a pas pris la course en main, c'est parce que aussi je pense qu'il y avait les deux flèches et qu'il savait que lui il était peut-être pas à un top niveau pour être aussi foudroyant qu'il ne l'avait été l'an passé.
Ouais, Cyril, toi t'es déçu de la course de Mathieu Van Der Poel ou alors non, admiratif de cette faculté à changer de statut en fin de course?
La faculté de changer de statut, non, ça, pour moi c'est la marque des grands qui sont capables à un moment d'inverser la vapeur et de brouiller un petit peu les cartes, voire beaucoup. Je pense pas que... Et c'est improuvable d'ailleurs. Est-ce que c'est Van Der Poel qui était un petit peu moins bien que l'an dernier ou est-ce que c'était Pogacar à qui il manquait quelque chose? C'est assez compliqué parce que si Pogacar... Il faut revoir un petit peu, se remémorer la montée de l'an dernier. Pogacar sort le premier, mais il sort un peu trop tôt. Et il se fait contrer par Van Der Poel. Là, il sort pas trop tôt, ça va pas assez loin, donc ça se relève. Et il ressort, et au contraire, là, il crée l'effet de surprise quand il sort. Et ce qui piège, et ce que disait d'ailleurs Van Der Poel, mais il est ressorti, et là, c'était à moi d'y aller. Mais Van Der Poel était déjà loin. Et donc, il avait juste la force de revenir avant le sommet sur Pogacar. Mais à partir de ce moment-là, il n'avait plus les moyens de faire comme l'an dernier, de contrer. Donc, on est vraiment sur des choses très sensibles, très fines, qui font que imaginons que Tim Wellens, fait 200 mètres de plus à un rythme, parce qu'il avait déjà baissé un petit peu, au rythme souhaité par Pogacar, rien ne dit que Van Der Poel aurait pu suivre. Mais rien ne dit non plus que si Van Der Poel est dans la roue de Pogacar lorsqu'il attaque, qu'il puisse pas le contrer plus loin. C'est, là, on est, moi je mets ma feu, enfin, j'ai pas la capacité de dire oui il est mieux ou il est moins bien. Il faudrait prendre les chronos, les datas et compagnie. Et là, c'est trop compliqué.
Ouais, il s'est mis dans le rouge en tout cas, Mathieu Van Der Poel. Hein, c'est ce qu'il dit quand il revient sur Tadej Pogacar. En même temps, faut se mettre dans le rouge quand tu veux revenir sur Tadej Pogacar. C'est comme ça. Dixième place au final pour Van Der Poel. C'est tout sauf anecdotique. Arnaud, justement, tu l'as anticipé sur les monuments. Sur les monuments, il est toujours placé et très très souvent dans le top 10.
Bah, c'est pas compliqué. C'est dans toute l'histoire du vélo celui qui a le plus de top 10 en ratio, en pourcentage. Sur 16 monuments courus, il a 15 top 10, Mathieu Van Der Poel, ça veut dire 91%. Par exemple, Eddy Merckx, c'est 86%. Il arrive en deuxième position. Alors, il a couru 51 monuments, Eddy Merckx. Il est terminé 44 fois dans le top 10. Mais on peut prendre Wout Van Aert, hein, par exemple, qui a 81% de réussite, on va dire, en matière de top 10 sur les monuments, 13 sur 16. Et puis Pogacar, c'est 10 sur 13, 77% également de réussite. Ça nous classe quand même, que ce soit Van Der Poel ou Pogacar, ou même Wout Van Aert, la qualité de ces coureurs-là qui ne laissent rien au hasard. Après, peut-être aussi qu'il y a une plus grande sélection, on va dire, des courses de la part de ces coureurs que ça ne pouvait être le cas, mais là je vais me tourner vers Cyril plutôt, que ça ne pouvait être le cas par le passé, parce que c'est vrai qu'on va moins, on va dire, perdre de l'influx sur des petites courses, et donc on va tout consacrer justement pour arriver sur les monuments, comme a pu le faire par exemple Tadej Pogacar, qui n'avait couru que les Strade Bianche avant de courir Milan-San Remo cette saison.
Oui, c'est vrai que on peut pas comparer l'époque de Merckx avec celle d'aujourd'hui. La façon de courir est totalement différente. Et puis, la qualité des coureurs de chaque équipe est beaucoup plus puissante. À part peut-être Merckx à un moment, mais la façon dont les courses courent aujourd'hui, les vrais leaders ne prennent pas un courant d'air jusqu'au moment où on va rentrer dans la phase finale. Pour Pogacar, d'ailleurs, des fois, ça commence à 80 km de l'arrivée, comme au Strade Bianche. Mais le système des équipes est tel que, de toute façon, les leaders vont se retrouver ensemble dans le final. C'est pour ça qu'on, je parle des grands leaders, hein, donc ils vont se retrouver avec 75-80% de top 10 sur ce genre d'épreuve. Mais ce qui me fait dire que c'est plus facile aujourd'hui parce que il y a beaucoup de parcours qu'on a rendu plus difficiles, à part Milan-San Remo. Mais les Tours des Flandres, on vous fait monter trois fois le vieux Quaremont, etc. C'est-à-dire que on durcit de plus en plus les compétitions, donc plus vous allez les durcir, et moins vous aurez de bras cassés à l'arrivée, quoi. Enfin, c'est pas péjoratif, ce que je veux dire, mais tu peux difficilement, si on pense sur le Tour des Flandres, on a une surprise avec Bettiol il y a 4 ou 5 ans, mais même quand Pedersen vient faire deuxième, Pedersen est devenu champion du monde après, et on le retrouve maintenant dans toutes les classiques. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir les meilleurs devant. Il y a plus de place à l'improvisation, et pour cause, quand on a les données de tous les coureurs, les directeurs sportifs dans les voitures, ils sont un petit peu avec la PlayStation, quoi. Mais il n'y a pas que dans le cyclisme.
Non, mais c'est vrai que quand tu regardes t'as raison, Cyril, quand tu regardes les derniers vainqueurs de monuments, tu prends Pogacar qui a gagné les trois derniers Tours de Lombardie, tu prends Evenepoel qui a gagné Liège-Bastogne-Liège, Alaphilippe, tu prends Van Aert, tu prends Mathieu Van Der Poel, qui c'est que j'oublie encore, tu prends Primoz Roglic également qui a gagné Liège-Bastogne-Liège. Enfin bref, il y a que des cadors en fait, il y a que des cadors qui gagnent ces courses-là.
Et oui, donc il y a moins de place au rêve.
Ouais, c'est ça. Même si on n'est pas passé loin, tu le disais, il y a beaucoup de coureurs qui sont partis.
Un Jackie Durand qui gagne le Tour des Flandres en partant au départ. Aujourd'hui, je vois pas très bien comment ça peut se passer, ça.
Oui, c'est sûr. À chaque fois, il y a des monstres, de toute façon, qui sont alignés sur les monuments. Justement, Cyril, petite question comme ça, et Arnaud, je te la pose aussi. Question pronostic. Van Der Poel a gagné 3 monuments. Il lui en reste 2, donc il lui reste Liège et le Tour de Lombardie. Trop compliqué pour lui ou
Liège, non.
Liège, je pense que, Liège, ça peut être même un objectif puisqu'il va le courir a priori cette année. Je rappelle quand même qu'il a gagné l'Amstel Gold Race comme première grande course, Mathieu Van Der Poel. Alors certes, c'est peut-être pas tout à fait exactement la même longueur d'effort que ne peuvent l'être des côtes comme notamment la Rochefaucon ou la Redoute, mais ça reste quand même une course très costaude à gagner, et le contexte dans lequel en plus il l'avait gagné en 2019 en devançant notamment en revenant sur une échappée à la Philippe Kwiatkowski avec un groupe de sacrés coursiers aussi avec lui, montre que selon moi il peut tout à fait gagner Liège-Bastogne-Liège. Le Tour de Lombardie, je serais beaucoup moins affirmatif.
Ouais, ça sourit plutôt au grimpeur le Tour de Lombardie. Cyril, du coup, qu'est-ce que tu sens, toi, pour Mathieu Van Der Poel ?
Moi, je pense que dans une grande journée avec 3-4 équipiers qui peuvent assurer les retours après les attaques des autres favoris sur les dernières ascensions, et entre autres en partant en commençant par la côte de la Redoute, oui, parce qu'il peut basculer très près en haut de la dernière épreuve. S'il a deux équipiers pour lui faire la descente, le plat et l'amener au pied de la dernière bosse d'arrivée, oui, il peut gagner. À la pédale, ça me paraît difficile qu'il lâche tout le monde. Il a quand même, même s'il a une puissance absolument extraordinaire, il a aussi un poids à monter. Et quelquefois, il y a aussi du pourcentage. Donc ce sera difficile. Le tour de Lombardie, Arnaud, oui, je te rejoins. C'est un petit peu compliqué pour lui.
Bon, il y en a un autre qui n'est pas avare en monument, il s'appelle Tadej Pogacar, il était attendu, il s'est montré, surtout dans le Poggio, il a réussi à faire la différence au sommet avant d'être rejoint donc par Mathieu Van Der Poel. Ils n'ont pas pu s'isoler les deux, mais Tadej qui fait quand même troisième de la course derrière Philipsen et Matthews, le Slovène, qui était satisfait de ce podium à l'arrivée.
This podium is one of the...
C'est l'un des meilleurs podiums que j'ai jamais vu. Jasper et Michael sont de très bons amis, je suis très content de perdre contre eux. Ce podium, c'est l'un des plus beaux moments de ma vie. C'est l'une des courses les plus faciles de ma vie, surtout dans les premières heures. Ça n'a pas été très dur, mais c'était serré, j'avais vraiment de super jambes. Je suis très fier de l'équipe, ils m'ont mis en bonne position pour la Chipresa et le Poggio. Après, tout le monde veut gagner ici, et je n'ai pas réussi à faire le trou dans le final.
Bon, il est très content, Tadej Pogacar, de faire troisième dans un sprint comme ça. Évidemment, ça on peut le comprendre. Cyril, il parle de son équipe, mais est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire ? Est-ce que son équipe était tout à fait à la hauteur de ce Milan-San Remo, Cyril ?
Oh, il va manquer, oui, on peut le dire, oui. Oui, parce qu'il y a quand même qu'eux qu'on fait les tempos en essayant de donner un peu plus de rythme à la course et sur les quelques difficultés qu'il y a sur ce Milan-San Remo. Mais en fait, il a manqué quoi ? 200 mètres sur 300 kilomètres. À quel moment on peut dire que ? Donc non, moi je crois que c'est la course qui a fait que les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées. Et effectivement, il devait quand même avoir des belles jambes parce que faut quand même venir faire troisième dans un sprint à ce niveau-là.
Arnaud, t'es d'accord avec Cyril ? Est-ce que UAE aura peut-être dû mieux faire vu les coureurs présents.
En tout cas, ils ont essayé de durcir. Ils ont essayé de durcir ça. Bon, mais voilà. Mais manifestement, pouvaient-ils faire mieux ? Je repense au... Et c'est pour ça que ça m'avait fait sourire à ce qu'on entendait tout à l'heure de Mathieu Van Der Poel. Il a dit la Chipresa, c'était facile. Je vous rappelle quand même que UAE s'est mis en file indienne dans la Chipresa pour essayer de faire exploser tout le monde et qu'en guise d'explosion, il y a eu Alaphilippe et Laporte et Christophe qui ont été lâchés. Je sais même plus si c'était pas avant la Chipresa. Mais bref.
Oui, c'était avant. Oui.
C'était avant. Donc voilà, à partir de là, lui, il a fait ce qu'il a pu, Pogacar. Manifestement, il était fort puisqu'il trouve le moyen de placer un énorme pétard dans le Poggio. Il replace un énorme pétard en haut du Poggio. Il fait la descente, il se fait rejoindre par tout le monde et il trouve le moyen d'ailleurs de sprinter et de terminer quand même juste devant Mats Pedersen. Bon, je pense qu'il a fait son maximum, mais on peut pas non plus s'attendre à avoir tout le temps Tadej Pogacar gagner. On aime qu'il marque l'histoire du vélo. Il va peut-être falloir attendre un petit peu avant de le voir gagner Milan-San Remo, si tenté qu'il puisse le gagner. Moi, à mon avis, tu me poser la question pour Van Der Poel, ouais. Quel était le monument le plus dur à gagner ? Moi, je pense que pour Tadej Pogacar, ça ne sera pas Paris-Roubaix le monument le plus dur à gagner si un jour il décide de s'y aligner. Je pense que ça sera plutôt Milan-San Remo, parce que Milan-San Remo, t'as quand même une donnée en termes de côté aléatoire de la course qui est assez importante. Là, tu bascules encore avec 12 mecs à 3 bornes de l'arrivée. T'es avec 12 mecs qui peuvent remporter la course, potentiellement, en tout cas qui vont faire le sprint pour remporter la course, bah, tu prends juste sur Paris-Roubaix l'an passé, tu sors de la trouée d'Arambert, c'est-à-dire à 100 bandes de l'arrivée, t'as plus que 10 mecs qui peuvent gagner la course. Ouais. Et t'en as plus que 2 à 7 km de l'arrivée. Donc c'est un peu différent quand même.
C'est pas assez dur, Milan-San Remo, pour Tadej Pogacar, Cyril ?
Alors, c'est une course, on pourrait avoir un peu plus de pourcentage, par exemple sur le Poggio, mais bon, on va pas en mettre des buts de terre quand même pour finir.
On pour peut faire donner la course à Tadej, on peut le faire gagner comme ça. Hein.
Oui, effectivement, oui. Mais c'est, quand on dit que c'est une course qui est un peu particulière, on s'ennuie 95% du temps, mais en fait, c'est la course la plus longue de l'année. C'est celle qui se joue sur le plus petit nombre de kilomètres. Mm. Vous avez donc, quand vous passez le sommet, il vous reste la descente et l'arrivée, c'est-à-dire à peu près 7 kilomètres. Vous avez les 4, on va dire les 4 kilomètres qui montent, c'est-à-dire qu'en 11 ou 12 kilomètres, la course se joue là. Et en fait, c'est une course de côte. Avec, bien sûr, un peu de stratégie, même beaucoup sur le final, en fonction de ce qui sera passé dans l'ascension. Est-ce qu'il serait plus avantagé s'il y avait plus de pourcentage ou s'il y en avait moins? Bon, c'est vraiment difficile à dire parce que c'est vraiment l'explosivité maximale qu'un coureur est capable de supporter à partir du moment où il passe à l'offensive.
Bon.
Et le jour où Pogacar, ou tout du moins que Van Der Poel sera moins fort ou un autre, hein, oui, il peut aller la chercher, mais c'est pour moi plus difficile pour lui que de gagner Paris-Roubaix. Oui.
Ouais. Bon, vous êtes d'accord.
C'est formidable, on est d'accord sur tout cette semaine.
C'est dingue, hein.
C'est assez fou.
Ah bah oui.
Ouais. Ça, on va faire fuir les auditeurs à pas s'engueuler.
Ouais.
Bon. Tadej Pogacar, 5e en 2022, 4e en 2023, 3e en 2024.
Ah. Bon, il y a une certaine logique.
Je la voyais venir, celle-là.
Oui.
Dans deux ans, il gagne.
C'est ça. On lui a posé la question, on sait où l'attendre en 2025. Il y a répondu, ça l'a fait marrer d'ailleurs, Pogacar.
I hope not second.
J'espère que je ne serai pas deuxième. Ça paraît gourmand, mais je veux gagner cette course et je ne serai pas content en étant deuxième.
I want to win this race and I will not be happy with second place.
Bon, il se fout un peu de nous, Cyril. Il nous dit qu'il est content de faire troisième et puis il nous dit que non, deuxième, c'est pas assez. Il a vraiment envie de la gagner.
Oui, mais
c'est...
non, mais c'est la façon dont la question est posée par rapport à l'avenir.
Oui, c'est ça.
Il est déçu à l'arrivée, mais il est déçu d'avoir fait trois, mais il est aussi content d'être là et que dans aucun cas il a eu l'ouverture pour aller chercher la gagne. Mais dans le futur, il a pas envie de faire deux, quoi.
Ah bah non.
Et c'est pas dans son tempérament. Et puis bon, il aime bien garder ce ton un petit peu jovial, voire provocateur, mais avec beaucoup d'intelligence. Et comme ça, il masque aussi pas mal de choses. Mais c'est clair que s'il terminait encore deuxième, je pense que là, il ferait la gueule. Mais tout dépend de des circonstances de la course. Mais moi, je me pose quand même une petite question. C'est vrai aussi pour Van Der Poel, bien qu'il avait une saison de cyclocross derrière, qui est quand même pas n'importe quoi, et en termes de préparation surtout, mais je pense qu'il leur manque à l'un comme à l'autre une ou deux épreuves sur lesquelles ils auraient pu parfaire un tout petit peu le dernier pourcent qu'aurait permis de... on peut se poser plein de questions, mais c'est aussi les nouvelles méthodologies d'entraînement où tout est disséqué, tout est analysé, et on pense que ça peut marcher comme ça. Alors ça marche une fois, puis des fois ça marche pas. On a le problème de Christophe Laporte, où ça a marché l'an dernier. Cette année, ça a même bien marché sur les quelques épreuves qu'il a faites. Sauf que cette année, non, ça n'a pas marché. Milan-San Remo, il se fait sortir dans le Capo Berta. C'est pas sa place, quoi.
Bon.
Mais voilà.
Il était manifestement malade, hein, malgré tout. Christophe Laporte, il avait un petit souci, un petit ennui de santé. Manifestement.
Ouais, c'est ça. On espère qu'on le retrouvera sur les Flandriennes, notamment Gent-Wevelgem dimanche, où il doit défendre son titre. Christophe Laporte, Tadej Pogacar, donc troisième, qui participe cette semaine, Arnaud, au Tour de Catalogne. Sa première course par étapes, sa rentrée finalement. Et c'est évidemment dans la préparation du Giro.
Absolument. Ça fait partie, hein, des courses qu'il va disputer. Alors, des rares courses, hein, qu'il va disputer, parce que après, on verra a priori pas avant Liège-Bastogne-Liège, et derrière il sera aligné sur le Giro d'Italia avant d'affronter Jonas Vingegaard a priori sur le Tour de France. Voilà, bon, le Tour de Catalogne, hein, il n'y a pas besoin de faire un dessin, c'est l'une des épreuves d'une semaine les plus difficiles du calendrier, parce que il y a beaucoup de montagnes, notamment on va se régaler du plateau.
Il est trois arrivées au sommet,
en une semaine. Il est notamment opposé à Sepp Kuss, vainqueur du dernier Tour d'Espagne. Il y a Damiano Caruso qui est également là. Et puis on va se régaler aussi de le voir s'affronter avec Lenny Martinez, la pépite de l'équipe Groupama FDJ, dont on ne sait pas d'ailleurs s'il ne sera pas débauché par une équipe étrangère d'ici l'année prochaine. Mais en tout cas, voilà, Tadej Pogacar qui va pouvoir montrer les crocs cette semaine pour sa première course à étapes de la saison.
Ouais, course importante donc pour Tadej Pogacar en vue du Giro. Tu parlais de Lenny Martinez, on parlait surtout de Christophe Laporte. On va revenir sur le Français qui a brillé sur ce Milan-San Remo, mais qui n'a pas échappé à la poisse, c'est Julien Alaphilippe. On est satisfait quand même de le retrouver au contact des meilleurs. Il termine 9e, premier tricolore. Il a évité les chutes, mais voilà, je le disais, l'âge commune qu'il poursuit tout de même, parce qu'il n'a pas pu défendre ses chances dans le sprint. Et d'ailleurs, il a donné les raisons à l'arrivée.
Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un beau final, je pense, et j'avais des bonnes jambes. Ça m'a fait plaisir d'être à l'avant dans le final. Et ouais, malheureusement, j'ai crevé, je pense, à un kilomètre d'arrivée. c'est comme ça. Ça va tourner à un moment donné.
Ouais, ça va tourner, Cyril. Mais déjà, la satisfaction, c'est de le voir devant.
Oui, on a même été un petit peu surpris parce que on s'attendait pas à ce qu'il puisse être à ce niveau-là. Il a aussi parfaitement couru. On l'a jamais vu ou très peu dans les premières positions. Il a toujours
été. Je t'ai même demandé s'il s'était pas fait lâcher dans un capot,
Voilà. oui, tout à fait. En fait, il a fait la même course que Philipsen.
C'est ça.
Et d'ailleurs, dans le final, on les retrouve dans les dernières positions du groupe de tête. Bon, ensuite. Ensuite, il a une crevaison lente. Bon, là, il commence à la sentir. Mais bon, de toute façon, au pire, il aurait pu faire 6 ou 7. Mais 9e, c'est quand même une belle performance. Et puis, quand on l'entend, il est pas déçu de sa crevaison parce qu'il n'en parle pas de cette façon-là. Il est tellement heureux d'être là. Il sait que la crevaison, c'est pas ça qui justifie le fait qu'il n'ait pas gagné. Moi, j'ai regardé encore tout à l'heure le sprint. Il fait un sprint à peu près normal. On voit juste sur le final un moment où, bon, là, il sent qu'il peut pas y aller plus. Mais de toute façon, il était battu à ce moment-là.
Oui, non, mais.
Non, le son de sa voix était quand même intéressant.
Oui.
Et je trouve que l'histoire de la crevaison, pour lui, elle est anecdotique.
Anecdotique, mais bon, voilà, après, ça lui permet quand même de dire. Enfin, il l'a dit dans le feu de l'action. Hein. Ça, c'est une interview qui est vraiment faite en fond de ligne. Il l'a vraiment dit dans le feu de l'action, donc c'est même pas pour se chercher une excuse ou quoi. C'est vraiment, ça sort du cœur. Il dit, ça va tourner, ça va finir par tourner. Parce que bon, on rappelle quand même tout ce qui s'est passé. On n'apprend rien, on vous l'apprend pas. Enfin, pas à nos auditeurs réguliers, en tout cas, ceux qui nous écoutent toutes les semaines. Il y a eu quand même quelques atermoiements. Avec Patrick Lefebvre, le manager général de son équipe, qui n'a pas manqué de l'asticoter depuis le début de la saison.
De l'houspiller.
Il y a eu des chutes, il y a eu la méforme sur Tirreno, il y a eu les critiques forcément qui s'en suivent dans les médias. Donc voilà, quand il dit la chance va tourner, c'est que peut-être à un moment, il se dit ça y est, quoi. Bon, j'ai peut-être crevé dans le final, mais quand même, je fais mon premier top 10 sur un monument depuis Liège-Bastogne-Liège 2021. Et ça, c'est quand même pas mal. C'est une bonne raison d'être satisfait pour Julien Alaphilippe. Et ça veut dire, et ça, Philippe Gilbert, d'ailleurs, l'ancien champion du monde et qui n'a pas gagné Milan-San Remo d'ailleurs, dans tous les monuments qu'il a gagné, je ne crois pas qu'il ait gagné Milan-San Remo, je veux pas dire de bêtises, mais bref, Philippe Gilbert avait dit Julien Alaphilippe n'est pas cuit, et la preuve, Julien Alaphilippe l'a montré, il n'est pas cuit, effectivement.
Ouais, et on l'a entendu, tu le disais, Cyril, dans la voix quand même, on sent le retour du moral, en tout cas pour Julien Alaphilippe, qui aura pour objectif le Tour des Flandres. On va voir ce que ça va donner pour lui, d'ailleurs. Tour des Flandres comme Philipsen, comme Van Der Poel, le Français et le Français Christophe Laporte qui devrait revenir, Wout Van Aert aussi.
Il se prépare sacrément pour la campagne de Flandrienne.
Exactement, donc il y aura du beau monde sur les Flandriennes. D'ailleurs, tu vas nous suivre Gant-Wevelgem. Hein,
absolument, je pars en Belgique dès samedi. Voilà. Et pour être.
Oh, tu peux partir plus tôt.
Vous savez quoi, je pars même à Florence d'abord parce que dans. Alors là, on enregistre, il est lundi, donc dans 102 jours, dans 103 jours désormais, le Tour de France s'élancera de Florence, le Tour de France 2024. Mais moi, j'y serai à partir de jeudi à J-100 et voilà, j'aurai plein de choses à vous raconter très certainement la semaine prochaine. Donc je reviens de Florence. Vous en fichez peut-être un de mes trajets, mais je vous le dis quand même, je reviens de Florence le vendredi et puis le samedi, je pars à Grand Vivel Game.
Voilà, vous savez où trouver Arnaud Souk.
Hein, ouais, si jamais vous cherchez, vous n'êtes pas d'accord avec moi et vous voulez avoir une explication, je suis là.
Bon, en tout cas, tu vas nous suivre donc ces belles courses, les pavés qui vont commencer. On n'oublie pas aussi le Tour de Catalogne cette semaine. On suivra tout ça sur RMC et on débriefera tout dans Grand Plateau qui revient la semaine prochaine, les amis. Je vous remercie Arnaud et Cyril d'avoir été avec moi pour ce retour sur Milan-San Remo, premier monument de l'année qui a sacré Jasper Philipsen. On espère évidemment qu'on aura le droit à des courses spectaculaires encore toute cette semaine. Bonne semaine à vous et bonne semaine à tous. À bientôt.
Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.